Septième, Patron Minette. Chapitre 1, Les mines et les mineurs. Les sociétés humaines ont toutes ce qu'on appelle dans les théâtres un troisième dessous. Le sol social est partout miné, tantôt pour le bien, tantôt pour le mal. Ces travaux se superposent. Il y a les mines supérieures et les mines inférieures. Il y a un haut et un bas dans cet obscur sous-sol qui s'effondre parfois sous la civilisation et que notre indifférence et notre insouciance foulent aux pieds. L'encyclopédie, au siècle dernier, était une mine presque à ciel ouvert. Les ténèbres, ces sombres couveuses du christianisme primitif, n'attendaient qu'une occasion pour faire explosion sous les Césars et pour inonder le genre humain de lumière. Car dans les ténèbres sacrées, il y a de la lumière latente. Les volcans sont pleins d'une ombre capable de flamboiement. Toute lave commence par être nuit. Les catacombes, où s'est dite la première messe, n'étaient pas seulement la cave de Rome. Elles étaient le souterrain du monde. Il y a, sous la construction sociale, cette merveille compliquée d'une masure, des excavations de toutes sortes. Il y a la mine religieuse, la mine philosophique, la mine politique, la mine économique, la mine révolutionnaire. Telle pioche avec l'idée, telle pioche avec le chiffre, telle pioche avec la colère. On s'appelle et on se répond d'une catacombe à l'autre. Les utopies cheminent sous terre dans ces conduits. Elles s'y ramifient en tous sens. Elles s'y rencontrent parfois et y fraternisent. Jean-Jacques prête son pic à Diogène, qui lui prête sa lanterne. Quelquefois, elles s'y combattent. Calvin prend Saucin aux cheveux. Mais rien n'arrête ni n'interrompt l'attention de toutes ces énergies vers le but. Et la vaste activité simultanée qui va et vient, monte, descend et remonte dans ces obscurités, et qui transforme lentement le dessus par le dessous et le dehors par le dedans. Immense fourmillement inconnu. La société se doute à peine de ce creusement qui lui laisse sa surface et lui change les entrailles. Autant d'étages souterrains, autant de travaux différents, autant d'extractions diverses. Que sort-il de toutes ces fouilles profondes? L'avenir. Plus on enfonce, plus les travailleurs sont mystérieux. Jusqu'à un degré que le philosophe social sait reconnaître, le travail est bon. Au-delà de ce degré, il est douteux et mixte. Plus bas, il devient terrible. À une certaine profondeur, les excavations ne sont plus pénétrables à l'esprit de civilisation. La limite respirable à l'homme est dépassée. Un commencement de monstre est possible. L'échelle descendante est étrange, et chacun de ces échelons correspond à un étage où la philosophie peut prendre pied et où l'on rencontre un de ses ouvriers, quelquefois divin, quelquefois difforme. Au-dessous de Jean Hus, il y a Luther. Au-dessous de Luther, il y a Descartes. Au-dessous de Descartes, il y a Voltaire. Au-dessous de Voltaire, il y a Condorcet. Au-dessous de Condorcet, il y a Robespierre. Au-dessous de Robespierre, il y a Marat. Au-dessous de Marat, il y a Babeuf. Et cela continue. Plus bas, confusément, à la limite qui sépare l'indistinct de la visible, on aperçoit d'autres hommes sombres qui peut-être n'existent pas encore. Ceux d'hier sont des spectres, ceux de demain sont des larves. L'œil de l'esprit les distingue obscurément. Le travail embryonnaire de l'avenir est une des visions du philosophe. Un monde dans les limbes à l'état de fœtus quelle silhouette inouïe! Saint-Simon, Owen, Fourier sont là aussi, dans des sapes latérales. Certes, quoiqu'une divine chaîne invisible lie entre eux à leur insu tous ces pionniers souterrains, qui presque toujours se croient isolés et qui ne le sont pas, leurs travaux sont bien divers et la lumière des uns contraste avec le flamboiement des autres. Les uns sont paradisiaques, les autres sont tragiques. Pourtant, quel que soit le contraste, tous ces travailleurs, depuis le plus haut jusqu'au plus nocturne, depuis le plus sage jusqu'au plus fou, ont une similitude, et la voici. Le désintéressement. Marat s'oublie comme Jésus. Il se laisse de côté, il s'omette, il ne songe point à eux. Ils voient autre chose qu'eux-mêmes. Ils ont un regard, et ce regard cherche l'absolu. Le premier a tout le ciel dans les yeux. Le dernier, si énigmatique qu'il soit, a encore sous le sourcil la pâle clarté de l'infini. Vénérez, quoi qu'il fasse, quiconque a ce signe, la prunelle étoile. La prunelle ombre est l'autre signe. À elle commence le mal. Devant qui n'a pas de regard, songez et tremblez. L'ordre social a ses mineurs noirs. Il y a un point où l'approfondissement est de l'ensevelissement et où la lumière s'éteint. Au-dessous de toutes ces mines que nous venons d'indiquer, au-dessous de toutes ces galeries, au-dessous de tout cet immense système veineux, souterrain du progrès et de l'utopie, bien plus avant dans la terre, plus bas que Marat, plus bas que Babeuf, plus bas, beaucoup plus bas, et sans relation aucune avec les étages supérieurs, il y a la dernière sape. Lieu formidable. C'est ce que nous avons nommé le troisième dessous. C'est la fosse des ténèbres. C'est la cave des aveugles. Inferi. Ceci communique aux abîmes. Chapitre 2. Le bas-fond. Là, le désintéressement s'évanouit. Le démon s'ébauche vaguement, chacun pour soi. Le moi sans yeux hurle, cherche, tâtonne et ronge. L'ugolin social est dans ce gouffre. Les silhouettes farouches qui rôdent dans cette fosse, presque bêtes, presque fantômes, ne s'occupent pas du progrès universel. Elles ignorent l'idée et le mot. Elles n'ont souci que de l'assouvissement individuel. Elles sont presque inconscientes et il y a au-dedans d'elles une sorte d'effacement effrayant. Elles ont deux mères, toutes deux marâtres, l'ignorance et la misère. Elles ont un guide, le besoin. Et pour toutes les formes de la satisfaction, l'appétit. Elles sont brutalement voraces, c'est-à-dire féroces, non à la façon du tyran, mais à la façon du tigre. De la souffrance, ces larves passent au crime. Filiation fatale, engendrement vertigineux, logique de l'ombre. Ce qui rampe dans le troisième dessous social, ce n'est plus la réclamation étouffée de l'absolu, c'est la protestation de la matière. L'homme y devient dragon. Avoir faim, avoir soif, c'est le point de départ. Être Satan, c'est le point d'arrivée. De cette cave sort Lassner. On vient de voir tout à l'heure, au livre quatrième, un des compartiments de la mine supérieure, de la grande sape politique, révolutionnaire et philosophique. Là, nous venons de le dire, tout est noble, pur, digne, honnête. Là, certes, on peut se tromper, et l'on se trompe, mais l'erreur y est vénérable, tant elle implique d'héroïsme. L'ensemble du travail qui se fait là a un nom, le progrès. Le moment est venu d'entrevoir d'autres profondeurs, les profondeurs hideuses. Il y a sous la société, insistons-y, et jusqu'au jour où l'ignorance sera dissipée, il y aura la grande caverne du mal. Cette cave est au-dessous de toutes, et est l'ennemi de toutes. C'est la haine sans exception. Cette cave ne connaît pas de philosophe. Son poignard n'a jamais taillé de plume. Sa noirceur n'a aucun rapport avec la noirceur sublime de l'écritoire. Jamais les doigts de la nuit qui se crispent sous ce plafond asphyxiant n'ont feuilleté un livre, ni déplié un journal. Babeuf est un exploiteur pour Cartouche. Marat est un aristocrate pour Schinderhans. Cette cave a pour but l'effondrement de tout. De tout, y compris les sapes supérieures qu'elles exècrent. Elles ne minent pas seulement dans son fourmillement hideux. L'ordre social actuel. Elle mine la philosophie, elle mine la science, elle mine le droit, elle mine la pensée humaine, elle mine la civilisation, elle mine la révolution, elle mine le progrès. Elle s'appelle tout simplement vol, prostitution, meurtre et assassinat. Elle est ténèbres et elle veut le chaos. Sa voûte est faite d'ignorance. Toutes les autres, celles d'en haut, n'ont qu'un but, la supprimer. C'est là que tendent, par tous leurs organes à la fois, par l'amélioration du réel comme par la contemplation de l'absolu, la philosophie et le progrès. Détruisez la cave ignorance, vous détruisez la taupe crime. Condensons en quelques mots une partie de ce que nous venons d'écrire. L'unique péril social, c'est l'ombre. Humanité, c'est identité. Tous les hommes sont la même argile. Nulle différence, ici-bas du moins, dans la prédestination. Même ombre avant, même chair pendant, même cendre après. Mais l'ignorance, mêlée à la pâte humaine, la noircit. Cette incurable noirceur gagne le dedans de l'homme et y devient le mal. Chapitre 3. Babet, Gueulemer, Claquesous et Montparnasse. Un quatuor de bandits, Claquesous, Gueulemer, Babet et Montparnasse, gouvernait, de 1830 à 1835, le troisième dessous de Paris. Gueulemer était un Hercule déclassé. Il avait pour antre les goûts de l'arche Marion. Il avait 6 pieds de haut, des pectoraux de marbre, des biceps, des reins, une respiration de caverne, le torse d'un colosse, un crâne d'oiseau. On croyait voir Hercule Farnèse vêtu d'un pantalon de coutil et d'une veste de velours de coton. Gueulemer, bâti de cette façon sculpturale, aurait pu dompter les monstres. Il avait trouvé plus court d'en être un. Front bas, tempe large, moins de 40 ans et la patte d'oie, le poil rude et court, la joue en brosse, une barbe sanglière. On voit d'ici l'homme. Ses muscles sollicitaient le travail. Sa stupidité n'en voulait pas. C'était une grosse force paresseuse. Il était assassin par nonchalance. On le croyait créole. Il avait probablement un peu touché au maréchal Brune, ayant été portefait à Avignon en 1815. Après ce stage, il était passé bandit. La diaphanéité de Babet contrastait avec la viande de Gueulemer. Babet était maigre et savant. Il était transparent, mais impénétrable. On voyait le jour à travers les os, mais rien à travers la prunelle. Il se déclarait chimiste. Il avait été pitre chez Bobèche et paillasse chez Bobineau. Il avait joué le vaudeville à Saint-Mihiel. C'était un homme à intention, beau parleur, qui soulignait ses sourires et guillemettait ses gestes. Son industrie était de vendre en plein vent des bustes de plâtre et des portraits du chef de l'État. De plus, il arrachait les dents. Il avait montré des phénomènes dans les foires et possédait une baraque avec trompette et cette affiche « Babet, artiste dentiste, membre des académies, fait des expériences physiques sur métaux et métalloïdes, extirpe les dents, entreprend les chicots abandonnés par ses confrères. Prix, 1 dent, 1 franc 50 centimes, 2 dents, 2 francs, 3 dents, 2,50 €. Profitez de l'occasion. Ce « profitez de l'occasion » signifiait « faites-vous en arracher le plus possible ». Il avait été marié et avait eu des enfants. Il ne savait ce que sa femme et ses enfants étaient devenus. Il les avait perdus, comme on perd son mouchoir. Haute exception dans le monde obscur dont il était, Babet lisait les journaux. Un jour, du temps qu'il avait sa famille avec lui dans sa baraque roulante, il avait lu dans Le Messager qu'une femme venait d'accoucher d'un enfant suffisamment viable, ayant un mufle de veau. Et il s'était écrié « Voilà une fortune ! Ce n'est pas ma femme qui aurait l'esprit de me faire un enfant comme cela !» Depuis, il avait tout quitté pour entreprendre Paris. Expression de lui. Qu'était-ce que Claquesous ? C'était la nuit. Il attendait pour se montrer que le ciel se fût barbouillé de noir. Le soir, il sortait d'un trou où il rentrait avant le jour. Où était ce trou ? Personne ne le savait. Dans la plus complète obscurité, à ses complices, il ne parlait qu'en tournant le dos. S'appelait-il Claquesous ? Non. Il disait « Je m'appelle pas du tout ». Si une chandelle survenait, il mettait un masque. Il était ventriloque. Babet disait « Claquesous est un nocturne à deux voix ». Claquesous était vague, errant, terrible. On n'était pas sûr qu'il eût un nom, Claquesous étant un sobriquet. On n'était pas sûr qu'il eût une voix, son ventre parlant plus souvent que sa bouche. On n'était pas sûr qu'il eût un visage, personne n'ayant jamais vu que son masque. Il disparaissait comme un évanouissement. Ses apparitions étaient des sorties de terre. Un être lugubre, c'était Montparnasse. Montparnasse était un enfant. Moins de 20 ans, un joli visage, des lèvres qui ressemblaient à des cerises, de charmants cheveux noirs, la clarté du printemps dans les yeux. Il avait tous les vices et aspirait à tous les crimes. La digestion du mal le mettait en appétit du pire. C'était le gamin tourné voyou et le voyou devenu escarpe. Il était gentil, efféminé, gracieux, robuste, mou, féroce. Il avait le bord du chapeau relevé à gauche pour faire place à la touffe de cheveux, selon le style de 1829. Et il vivait de voler violemment. Sa redingote était de la meilleure coupe, mais râpée. Montparnasse, c'était une gravure de mode ayant de la misère et commettant des meurtres. La cause de tous les attentats de cet adolescent était l'envie d'être bien mis. La première grisette qui lui avait dit « Tu es beau !» lui avait jeté la tache de ténèbres dans le cœur et avait fait un Caïn de cette Abel. Se trouvant joli, il avait voulu être élégant. Or, la première élégance, c'est l'oisiveté. L'oisiveté d'un pauvre, c'est le crime. Peu de rôdeurs étaient aussi redoutés que Montparnasse. À 18 ans, il avait déjà plusieurs cadavres derrière lui. Plus d'un passant, les bras étendus, gisait dans l'ombre de ce misérable, la face dans une mare de sang. Frisé, pommadé, pincé à la taille, des hanches de femme, un buste d'officier prussien, le murmure d'admiration des filles du boulevard autour de lui, la cravate savamment nouée, un casse-tête dans sa poche, une fleur à sa boutonnière, tel était ce mirliflore du sépulcre. Chapitre 4. Composition de la troupe. À eux quatre, ces bandits formaient une sorte de protée, serpentant à travers la police et s'efforçant d'échapper aux regards indiscrets de Vidocq, sous diverses figures, arbres, flammes, fontaines, s'entreprêtant leurs noms et leurs trucs, se dérobant dans leur propre ombre, boîtes à secrets et asiles les uns pour les autres, défaisant leur personnalité comme on ôte son faux nez au bal masqué, parfois se simplifiant au point de ne plus être qu'un, parfois se multipliant au point que Coco Lacour lui-même les prenait pour une foule. Ces quatre hommes n'étaient point quatre hommes, C'était une sorte de mystérieux voleur à quatre têtes, travaillant en grand sur Paris. C'était le polype monstrueux du mal, habitant la crypte de la société. Grâce à leurs ramifications et aux réseaux sous-jacents de leurs relations, Babet, Gueulemer, Claquesous et Montparnasse avaient l'entreprise générale des guet-apens du département de la Seine. Ils faisaient sur le passant le coup d'État d'en bas. Les trouveurs d'idées en ce genre, les hommes à imagination nocturne, s'adressaient à eux pour l'exécution. On fournissait aux quatre coquins le canevas, ils se chargeaient de la mise en scène. Ils travaillaient sur scénario. Ils étaient toujours en situation de prêter un personnel proportionné et convenable à tous les attentats, ayant besoin d'un coup d'épaule et suffisamment lucratif. Un crime étant en quête de bras, ils lui soulouaient des complices. Ils avaient une troupe d'acteurs de ténèbres à la disposition de toutes les tragédies de caverne. Ils se réunissaient habituellement à la nuit tombante, heure de leur réveil, dans les steppes qui avoisinent la salpêtrière. Là, ils conféraient. Ils avaient les 12 heures noires devant eux. Ils en réglaient l'emploi. Patron Minette, tel était le nom qu'on donnait dans la circulation souterraine à l'association de ces quatre hommes. Dans la vieille langue populaire fantasque, qui va s'effaçant tous les jours, patron Minette signifie le matin, de même que entre chien et loup signifie le soir. Cette appellation, patron Minette, venait probablement de l'heure à laquelle leur besogne finissait. L'aube étant l'instant de l'évanouissement des fantômes et de la séparation des bandits. Ces quatre hommes étaient connus sous cette rubrique. Quand le président des Assises visita Lacenaire dans sa prison, il le questionna sur un méfait que Lacenaire niait. « Qui a fait cela ?» demanda le président. Lacenaire fit cette réponse, énigmatique pour le magistrat, mais claire pour la police. « C'est peut-être patron Minette. » On devine parfois une pièce sur l'énoncé des personnages. On peut de même presque apprécier une bande sur la liste des bandits. Voici, car ces noms-là surnagent dans les mémoires spéciales, à quelles appellations répondaient les principaux affiliés de patron Minette. Panchaud, dit printanier, dit brigonaille. Brujon, il y avait une dynastie de Brujon, nous ne renonçons pas à en dire un mot. Boulatruelle, le cantonnier déjà entrevu. La veuve, Finistère. Homère Augu, nègre. Mardi soir, dépêche. Font le roi, dit Bouquetière. Glorieux, forçat libéré. Barcarosse, dit Monsieur Dupont. L'esplanade du sud, pousse à grive. Carmagnolet, Gruy-Denier, dit Bizarro. Manque dentelle, les pieds en l'air. 2 milliards, dit 2 liards, etc., etc. Nous en passons, et non des pires. Ces noms ont des figures. Ils n'expriment pas seulement des êtres, mais des espèces. Chacun de ces noms répond à une variété de ces difformes champignons du dessous de la civilisation. Ces êtres, peu prodigues de leur visage, n'étaient pas de ceux qu'on voit passer dans les rues. Le jour, fatigués des nuits farouches qu'ils avaient, ils s'en allaient dormir, tantôt dans les fours à plâtre, tantôt dans les carrières abandonnées de Montmartre ou de Montrouge, parfois dans les égouts. Ils se terraient. Que sont devenus ces hommes? Ils existent toujours. Ils ont toujours existé. Horace en parle. Ambu baiarum collegia, pharmacopolae, mandici mimae. Et tant que la société sera ce qu'elle est, ils seront ce qu'ils sont. Sous l'obscur plafond de leur cave, ils renaissent à jamais du suintement social. Ils reviennent, spectres toujours identiques. Seulement, ils ne portent plus les mêmes noms et ils ne sont plus dans les mêmes pots. Les individus extirpés, la tribu subsiste. Ils ont toujours les mêmes facultés. Du truand au rôdeur, la race se maintient pure. Il devine les bourses dans les poches. Il flaire les monstres dans les goussets. L'or et l'argent ont pour eux une odeur. Il y a des bourgeois naïfs dont on pourrait dire qu'ils ont l'air volable. Ces hommes suivent patiemment ces bourgeois. Au passage d'un étranger ou d'un provincial, ils ont des tressaillements d'araignées. Ces hommes-là, quand vers minuit, sur un boulevard désert, on les rencontre ou on les entrevoit, sont effrayants. Ils ne semblent pas des hommes, mais des formes faites de brumes vivantes. On dirait qu'ils font habituellement bloc avec les ténèbres, qu'ils n'en sont pas distincts, qu'ils n'ont pas d'autre âme que l'ombre, et que c'est momentanément et pour vivre pendant quelques minutes d'une vie monstrueuse qu'ils se sont désagrégés de la nuit. Que faut-il pour faire évanouir ces larves? De la lumière à flot. Pas une chauve-souris ne résiste à l'aube. Éclairer la société en dessous.